Bonsoir. La plateforme Opposition Patriotique Républicaine demande la mise en place du comité préparatoire du dialogue national d'ici le 30 mars prochain. Un ultimatum lancé le week-end dernier par cette plateforme qui estime que si cette date n'est pas respectée, l'on doit déclarer impossible la tenue du dialogue et la fin du processus électoral. Comment analyser cette déclaration? Pour en parler, je reçois professeur Sylvanus Mouchi Bonané, député honoraire et président de la plateforme Opposition Patriotique Républicaine. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Honorable Crispin Goy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national de la majorité présidentielle et cadre du parti RUDEC, également communicateur de la MP. Joseph Kongolo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique. Mesdames et messieurs, bonsoir une fois de plus et bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Si d'ici le 30 mars prochain, le comité préparatoire du dialogue national n'est pas mis en place, Edem Kodjo devra être éconduit et qu'on déclare impossible la tenue de ce dialogue et la fin du processus électoral. L'ultimatum émane de l'OPR, Opposition Patriotique Républicaine. Cette plateforme d'une trentaine des partis politiques et organisations de la société civile l'a déclaré samedi dernier à Kinshasa, à l'issue d'une assemblée générale consacrée à l'évaluation du processus électoral. Pour son président et porte-parole, plus le temps passe, plus la situation du pays se complique. On écoute le professeur Sylvanus Mouchi Bonané au micro d'Innocent en Olinga.
S'il n'y a pas le comité préparatoire désigné et mis directement au travail, nous allons au lendemain du 30 demander à M. Edem Kodjo de dresser son PV de carence et de rebourser chemin. Il sera considéré comme non grata dans notre pays si jusqu'après le 30 il n'y aura pas eu le comité en place et en pleine fonction. Parce que nous voyons se dessiner un risque d'une situation politique intenable, aux conséquences incalculables. Et comme à l'OPR, il y en a de ceux-là qui ont milité contre l'envahissement du pays dans le mouvement Mai Mai, qui connaissent le prix réel à payer, on ne peut pas souhaiter que ça vienne deux fois.
Professeur Sylvanus Mouchi Bonané, vous êtes député honoraire et président de la plateforme Opposition Patriotique Républicaine. C'est vous que l'on venait de suivre tout de suite là. Professeur, qu'est-ce qui motive une telle démarche?
C'est la longue file d'attente. On a eu à nous féliciter de l'initiative du chef de l'État qui, ayant constaté que la mise en œuvre du processus électoral rencontrait beaucoup de problèmes, que l'on accumulait, qu'on avait déjà accumulé un retard impossible à résorber, qu'il avait appelé à un dialogue entre nous, Congolais. Tous nous avons applaudi ceci. Nous avons dit que c'était une pensée, une initiative, une sortie de très très grande sagesse. Mais seulement voilà, nous sommes allés des jours en semaine, des semaines en mois.
Depuis le 28 mars, le 28 novembre, pardon, 2015.
Ben voilà, et depuis lors, c'est des jours en semaine, des semaines en mois, et bientôt des mois en année. Nous avons dit, il y a un début à tout, et une fin à tout. Le peuple ne peut pas se laisser maintenir à la laine comme ça.
Attendre indéfiniment.
Indéfiniment, et pendant que le risque... tout tourne, les indicateurs vont au rouge, sont au jaune et sont en train d'aller au rouge. Il faut réagir. Et le rôle du politique, c'est d'alarmer, c'est d'alerter dans tous les sens. Le peuple, comme le pouvoir organisateur de ces dialogues, pour dire, c'est là où se trouve la dernière solution. Nulle part ailleurs. Dans cette sagesse du chef de l'État, il faut qu'on y tire l'élément essentiel de sauvetage, de sorte que d'ici là, les Congolais entre eux-mêmes, sous l'arbre à palabre, puissent parler avec ou sans facilitateur, avec ou sans témoin, avec ou sans médiateur. Mais nous avons déjà obtenu la classe politique pour un médiateur ou un facilitateur, et il est déjà là. Alors, depuis un temps, lui aussi tourne en rond, et on s'est dit, ben, on va lui impartir un délai jusqu'à la fin de ce mois-ci, en tout cas spécialement le 30 mars, s'il n'a rien fait, là, il lui restera qu'à dresser un PV de carence, rebourser le chemin s'il ne le fait pas de lui-même, dans sa gentillesse naturelle, le peuple congolais s'organiserait pour les conduire sous bonne escorte à la frontière.
Alors, professeur, pourquoi la date du 30 mars et pas du 30 avril ou une autre date?
Nous avons dit que le facilitateur, du moins c'est ce que nous avons convenu à dire, personne ne détient un acte qui définirait exactement le statut de M. Edem Kodjo. Tantôt on l'a appelé facilitateur, tantôt médiateur, tantôt lui-même s'est dit au sortir d'une audience avec le président de Tshisekedi qu'il était ou qu'il serait informateur. Donc c'est très compliqué, mais au moins nous retenons qu'il est facilitateur. Et nous, nous avons choisi la date du 30, c'est parce que nous savons qu'il était parti en ce qu'on rentre à les rendre compte à l'Union africaine qu'il avait mandaté.
Oui, mais pourquoi Edem Kodjo? Est-ce que tout dépend de lui?
Non. Aujourd'hui, oui, c'est comme s'il avait l'exécutif de ses projets de dialogue, parce que c'est lui qui a fait ses consultations ici, c'est lui qui est censé dire au président de la République qui, lui, de par ses charges constitutionnelles, est censé patronner ses assises, c'est lui qui est censé lui apporter les éléments. Si nous-mêmes, nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur la tenue immédiate de ces forums, de ces assises, et on a fait appel à un intervenant extérieur, c'est-à-dire Edem Kodjo, il a fait ses consultations publiquement, il est censé déposer son rapport sur la table qu'il avait invité. Nous constatons que jusque-là, il a fait suffisamment de tours, des allées-venues, les rapports, on n'en parle pas, et nous nous disons, bon, on ne va pas attendre indéfiniment ces rapports, il faut qu'ils soient sur la table de celui qu'il avait invité, et d'ici les 30, s'il n'y en a pas, nous allons constater qu'il est incapable de réaliser la mission dont il est, on l'a confié.
Honorable Mouchi Bonamé, il y a Isaac Pampori qui de Bukavu qui dit, personne n'empêche ceux qui veulent aller au dialogue de le faire, mais dire que si le dialogue n'est pas tenu, le processus électoral tombe, autrement dit, fouler au pied le prescrit constitutionnel au nom d'une démarche inconstitutionnelle, ce ne sera que de la haute trahison.
Celui qui dit ça, il est libre, la Constitution nous garantit la liberté d'expression, mais il faut encore un peu plus de maturité politique pour comprendre que la Constitution nous prescrit des dates. Il y a eu un calendrier global qui a été publié ici, et déjà les délais constitutionnels de part, les mandats présidentiels, nous savons que au 19 décembre prochain, nous sommes censés avoir droit au nom de notre prochain président de la République, mais que rien n'a été fait jusque-là pour que nous puissions l'avoir. Et nous savons que à la tête du pays, nous ne voulons pas des vides, même si l'on nous dit ça et là, que c'est réglé aussi par la Constitution. Merci. Mais mieux vaut prévenir que guérir. Celui-là devrait encore apprendre que il n'y a que par cette voie, le dialogue, qu'on peut prévenir toute éventualité sur l'après le 20 décembre prochain.
Merci.
N'est pas
merci,
en tenir
professeur.
Compte, c'est ignorer l'histoire de son pays.
Merci. Honorable Crispin Goy, vous êtes député national de la majorité présidentielle, cadre du parti RUDEC, également communicateur de la majorité présidentielle. Honorable, au niveau de la majorité, est-ce que vous comprenez l'agacement de la classe politique au sujet du dialogue dont la convocation tire toujours en longueur, comme l'exprime l'OPR?
Merci beaucoup. Vous savez d'abord que le dialogue était le souhait, ou continue à être le souhait de tout le peuple congolais.
Émorné.
Non, il n'est pas émorné. Pourquoi? Puisque tout le monde a estimé que c'est dans le dialogue que nous allons parler de tous les problèmes qui se posent dans notre pays. Vous savez que sur la voie électorale aujourd'hui, il y a beaucoup d'embûches qui se posent. Il y a beaucoup de problèmes qui se posent. Alors, il fallait que nous puissions nous retrouver autour d'une table pour que nous puissions parler de nos problèmes. En réalité, le dialogue ne pouvait pas concerner quelqu'un d'autre que les Congolais. C'est un dialogue intercongolais où les Congolais devraient se parler entre eux en face pour voir l'avenir du pays. Autrement dit, ça veut dire quoi? Au dialogue, ce sont les problèmes congolais qui seront traités. Mais il y a eu tout simplement un groupe de nos compatriotes qui ont estimé qu'il était nécessaire que ces dialogues soient encadrés ou animés par quelqu'un d'autre provenant des Nations Unies. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État qui avait convoqué ce dialogue, il a ouvert la main pour dire si on veut avoir un facilitateur, on peut l'avoir. C'est dans ce cadre que M. Edem Kodjo est venu. Il est en train de faire ce travail. Et quand il est en train de faire ce travail, nous pensons que maintenant, la plupart des Congolais est d'accord. Il pouvait venir faire son rapport et puis réunir le peuple congolais afin qu'on puisse parler des problèmes congolais. En ce qui concerne l'OPER, moi j'ai dit non, mais c'est un cri des peuples congolais qui veut organiser ce dialogue. Ce sont les Congolais qui veulent participer à ce dialogue.
Un cri à l'endroit du président de la République qui ne paraît plus très pressé d'organiser ce dialogue.
Non, il ne paraît plus très pressé d'organiser le dialogue, puisque le chef de l'État, dans ses prérogatives constitutionnelles, il a convoqué le dialogue et il appartient maintenant au facilitateur qui est en train de prendre contact avec les autres, de faire son rapport afin que tout le monde se retrouve autour d'une table. Donc il suffit tout simplement que M. Edem Kodjo puisse déjà faire son rapport final et tout le monde va se retrouver autour de la table. Et vous avez suivi aujourd'hui dans le discours d'ouverture de la session au Parlement, le président de l'Assemblée nationale, il a mis le point sur les i en confirmant que le dialogue va se tenir quel que soit le format. Donc nous pensons que maintenant que Edem Kodjo est de retour, et il pourra déjà faire son rapport et le dialogue devra se tenir.
Quel que soit le format, même s'il faudrait faire des consultations bis.
Les consultations bis, d'abord les consultations, ce sont les méthodes qui sont partout là où il y a du dialogue. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas exclu. On peut continuer à consulter jusqu'au dernier jour du dialogue.
Même si les résolutions continuent à souffrir d'application.
Les résolutions vont souffrir d'application au cas où on ne les amenait pas dans les institutions d'application. Et d'ailleurs, les discours du président de l'Assemblée nationale, vous avez suivi, que les conclusions du dialogue finiront par tomber sur les tables du Parlement.
En tout cas, c'est du déjà entendu.
Oui, c'est déjà entendu, vous continuez à entendre et vous verrez vivre.
Honorable Crispin Ngoï, quand l'OPER conditionne la suite du processus électoral à l'organisation du dialogue, qu'est-ce que vous en pensez? Certains observateurs pensent que c'est assez paradoxal.
Non, je crois que nous devons un peu élargir notre assiette de réflexion pour savoir que le dialogue aujourd'hui va parler effectivement de plusieurs points. Vous savez que le dialogue de Sun City, qu'on avait appelé comme étant le dialogue intercongolais, qui avait abouti à l'accord global inclusif, nous a amené aujourd'hui à la démocratie. Nous a amené aujourd'hui à l'organisation des élections à deux reprises. Nous a amené aujourd'hui au niveau de développement. Nous a amené à une gestion de la République à ce niveau. Mais je crois que après 10 ans, il y a moyen de comprendre que les résultats ou l'effet de ce dialogue intercongolais-Afrique du Sud est en train de s'expirer. Donc, il est grand temps aussi que nous puissions penser de notre République dans les 10 ans à venir. D'autant plus que nous venons de consommer les premiers 10 ans, nous allons maintenant dans les 10 ans à venir. Il est grand temps, au cours de ce dialogue, puisque c'est une rencontre de peuples congolais en dehors des élections qui doivent intervenir et qui, d'une manière apaisée, que le Congolais se pose la question: que deviendra notre pays dans les 10 ans à venir? Comment est-ce que notre pays sera géré dans les 10 ans à venir? Ce sont les questions que nous devons poser. Et nous devons aussi évaluer ce que nous appelons notre marche politique, notre gestion.
Au il y a moyen de se poser des questions. Les gens attendent les élections qui doivent se tenir. Vous pensez que c'est le moment de réfléchir ce que la nation sera dans 10 ans?
Bien sûr, il ne faut pas, puisque on ne va pas organiser les élections pour les élections. Donc on organise les élections et puis il y a les effets qui vont suivre pour la gestion de la République afin que le bien-être puisse être au rendez-vous. Pourquoi? Puisque si vous allez aux élections pour les élections, que deviendront les pays? Je vais vous poser une question de savoir. Nous avons décidé à ce qu'il y ait 9 types d'élections dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas pu réaliser les 9 types? Est-ce que devons-nous continuer? Est-ce que devons-nous voir? Et en plus de cela, nous avons opté pour les assemblées provinciales afin qu'ils puissent contrôler les gouverneurs de province. Est-ce que dans les 10 ans à venir, est-ce que les gouverneurs de province ont été contrôlés comme il faut? Et qu'est-ce que le peuple congolais a gagné de la présence des assemblées provinciales et des gouverneurs élus? Ce sont les questions qu'on doit se poser pour continuer.
Voilà, merci. Heureusement que vous les posez à la classe politique congolaise. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, vous avez suivi le professeur Mouchi Bonané et l'honorable Crispin Ngoï. Comment vous comprenez cet appel, ce cri lancé par l'OPR?
Bien, merci beaucoup. Je commence par saluer mes aînés et à le professeur Mouchi et l'honorable Crispin. D'abord, je voudrais dire que cette déclaration vient ici contribuer à un contexte chargé d'incertitudes et de menaces. C'est pas la première déclaration de l'OPER qui fixe des échéances. Je crois que l'UDPS avait aussi fixé l'échéance au 31 janvier. C'est-à-dire que toute cette déclaration vient aussi surcharger, si vous voulez bien, ce contexte qui est déjà plein d'incertitudes et de menaces. Deuxièmement, tout cela traduit un peu de l'anarchie dans les revendications et les actions en lieu et place d'expression ordonnée. Troisièmement, en posant ce problème tel que l'OPER le pose, est-ce qu'on a les contours, est-ce que l'OPER peut nous donner le contour de la crise pour pouvoir à la fois subordonner, si vous voulez bien, le processus électoral au dialogue? Quelle est la nature de cette crise qui fait que le processus électoral soit subordonné au dialogue? Deuxièmement, comment expliquer, n'est-ce pas, quel est ce cri? Est-ce de l'impatience, de la déception, de la résignation, ou de la radicalisation, ou de la rénonciation? Nous ne comprenons pas. Quand ils posent cet ultimatum, ça signifie quoi? Qu'ils sont fatigués d'attendre? Ou encore, au 30 mars, ça veut dire que le dialogue n'a plus sa raison d'être, le processus électoral non plus?
Tout s'arrête.
C'est l'hécatombe? Qu'est-ce qui vient après? Moi, je crois que c'est justement la raison pour laquelle je dis qu'il y a une véritable anarchie de revendications et d'actions en lieu et place d'expression ordonnée. Je voudrais encore ajouter pour dire une chose, que la difficulté de donner les contours de la crise qui donne lieu au dialogue. Les gens parlent du dialogue, mais pourquoi le dialogue? Ils ne définissent pas la crise, la rupture dont il est question pour arriver à ce dialogue. C'est comme ça que tout le monde y va de sa manière. Celui-là parle, sans le dialogue, eh bien c'est l'hécatombe, c'est la fin des choses. Mais quelle est la nature de la crise?
Alors, à ce stade ou à ce jour, Joseph Kongolo, selon vous, qu'est-ce qui bloquerait la convocation de ce dialogue?
D'abord, c'est la mauvaise compréhension, cette diversité dans la compréhension de la crise. Il y a ceux qui disent qu'il n'y a pas de crise, les institutions fonctionnent correctement et que les problèmes posés sont des problèmes qui doivent être résolus par les constitutions. Il faut les écouter. Les autres disent qu'il y a crise, mais de quelle crise il s'agit? Est-elle politique? C'est une crise de pouvoir? C'est une crise institutionnelle? Il faut définir le concept lui-même de crise. Il faut donner les contours de la crise. Et je crois que de cette manière, les solutions, la compréhension de cette crise risque va donner clairement des voies pour arriver à la solution. Aujourd'hui, c'est ça la grande difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est ça la grande difficulté.
Alors, quand l'OPR indexe Edem Kodjo, s'agirait-il simplement d'un bouc émissaire?
Oui, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Edem Kodjo, ce sont des institutions, n'est-ce pas, sœurs, et qui viennent nous assister, n'est-ce pas? Parce qu'on suppose qu'on est en crise, ou si vous voulez, on est en crise, n'est-ce pas? Et il y a des amis, des frères, qui viennent en notre secours pour nous aider à nous mettre ensemble, voyez-vous? Alors, je ne vois pas en quoi tout retombe sur lui. Le professeur venait dire tout à l'heure, c'est lui qui est l'exécutif du dialogue. Vous voyez comment on se départit de sa propre responsabilité pour faire porter la responsabilité à une tierce personne. Je crois que la classe politique aujourd'hui doit se remettre en cause, doit définir la nature de la crise de manière consensuelle, et de cette manière, les solutions vont sauter clairement aux yeux. Et cette manière de voir la classe politique, n'est-ce pas, vouloir chercher des boucs émissaires, vouloir confondre parfois la crise et des conflits, ou ce que j'appelle des crises positives, c'est-à-dire des divergences positives.
Qu'il faudrait capitaliser.
Il faudrait capitaliser. Je crois que c'est une fuite en avant pour la classe politique. Ce que nous leur devons demander aujourd'hui, c'est que si, en dehors des institutions, ils n'ont pas su se mettre d'accord, n'est-ce pas, sur la nature de la crise et sur les mécanismes pour résorber cette crise, je crois qu'au niveau institutionnel, avec la rentrée parlementaire, je crois que les députés, n'est-ce pas, en tant qu'acteurs en puissance, acteurs politiques en puissance, ils doivent être en mesure de définir d'abord la nature de la crise, se mettre d'accord là-dessus, et je crois que de soi, les voies pour arriver à la solution vont se dégager d'elles-mêmes.
Justin Thier Kanyinda Kachala de Lubumbashi dit « La déclaration de l'OPER est une déclaration que je trouve, dit-il, républicaine, dans le sens qu'il faut que l'on soit fixé par rapport à la tenue ou non de l'événement pour que les débats politiques puissent évoluer, Joseph Kongo. »
C'est vrai, c'est légitime. Est-ce qu'il faut donner... Qui a convoqué le dialogue? Quel est son schéma? Quel est son agenda qu'il avait dans le dialogue? Je crois que c'est à celui-là, mais là qu'il faut demander, soit d'organiser le dialogue, soit de ne pas le faire. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a, quelqu'un qui a porté ce projet, politique, et il doit le faire. Mais est-ce qu'il faut y aller...
Aller jusqu'au bout.
Oui, il doit aller jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut y aller par des ultimatums et tout ça? En plus, ça je termine par là. J'ai entendu l'honorable Crispin, ce qu'il disait tout à l'heure. C'est justement ça la confusion. C'est qui fait peur aux autres. Il nous dit que le dialogue va parler de plusieurs points. Le dialogue intercongolais est en train d'expirer. Je ne sais pas. Là, nous avons déraillé. Là, nous semblons ne pas savoir qu'est-ce que nous voulons avec précision. Voyez-vous? Or, le président de la République a donné, en quelque sorte, il a proposé un ordre du jour qui n'a rien à voir avec tout ça.
Merci.
Alors, si déjà on commence à élargir le champ de réflexion, je vous dis que c'est pour aller s'y perdre. Et en ce moment-là, ça continue à faire peur aux autres qui ne veulent pas venir au dialogue.
Merci. Professeur Mouchi Bonané, il y a pour vous cette réaction.
De Bukavu au Sud Kivu. Je pense que cette plateforme qui s'est dit de l'opposition devrait plutôt diriger au gouvernement et doter à la CENI les moyens financiers et matériels pour organiser les élections. L'unique et seul moyen d'échapper à la RDC la crise qui se présente, car à mon avis, la tenue de ce dialogue est un obstacle majeur à l'organisation des élections dans les délais constitutionnels.
Réaction, professeur.
Oui, je comprends bien et je partage partiellement la préoccupation, d'ailleurs totalement la préoccupation de l'intervenant. Mais je voudrais tout simplement dire que nous avons un œil politique d'irréalisme. Il faut être réaliste, même si on devait nous donner tous les millions qu'il y a dans les grandes caisses des grandes puissances aujourd'hui. Entre maintenant et le délai constitutionnel qui nous reste, il est quasi impossible de réaliser toutes les opérations électorales qui reste litigieuse. Et c'est là où nous, au niveau de l'OPR, nous avons fait beaucoup d'analyses, nous avons tout un bureau en place qui, à longueur de journée, ne s'occupe que de faire des recherches, des analyses, et que nous passons en revue pour dire avec force. Nous sommes le 15 mars, nous n'avons rien entrepris. Au lieu d'entreprendre, de nous ancrer directement dans les processus vers un calendrier réaliste qui pourrait nous donner une idée sur la possibilité de résorber ou d'économiser du temps, même si on devait déborder, mais qu'on ne déborde pas des trop, qu'on déborde des jours et pas des mois. Non, nous sommes en face d'opérations, de SAP notamment, d'élections de gouverneurs, des assemblées qui sont en marge du vrai calendrier électoral. Alors mon ami de Bukavu qui vient d'intervenir doit savoir que Ce que nous nous pourchassons ici, c'est sauver l'essentiel. C'est de nous inscrire dans ce que nous appelons sagesse de celui qui a convoqué le dialogue, pour que nous puissions nous parler, pour que, en tout réalisme, nous puissions voir, nous puissions quantifier le travail, que nous puissions planifier le travail et que nous puissions commencer le travail, le vrai travail du processus électoral maintenant, et que nous puissions savoir nous le commençons quel jour et nous le terminons quel jour, au lieu tout simplement d'être populiste et de dire dans les délais constitutionnels, car nous savons qu'en réalité et de manière pragmatique, c'est devenu quasi impossible.
Deux auditeurs pour vous, professeur Mouchi Bonané, Moïse Inimo de Guémena. L'ultimatum de l'OPR est un coup d'épée dans l'eau, d'autant plus que l'opposition est divisée sur la tenue du dialogue, mais aussi le retardement volontaire du financement du processus électoral par le gouvernement. Professeur.
Bon, oui, nous sommes d'accord. Et voilà une matière convenable au dialogue, parce que mon ami de Guémena, je le félicite pour cette réflexion aussi capitale. Il doit ajouter à son économie de savoir que les dialogues, s'il y en a qui pensent que ce sera un forum qui représentera une parade de bonne santé où on va exhiber pratiquement tous les éléments extérieurs de ce qu'on a accumulé, c'est trompé. Le dialogue, c'est aussi un espace de jugement de l'action des uns et des autres.
Et donc, il faudrait éventrer le boa.
On éventrera le boa au dialogue. On verra qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Et nous avons...
Pensez-vous que c'est vraiment le moment de faire un tel diagnostic?
Absolument. Le dialogue, on ne peut pas arriver à un consensus si on ne s'est pas dit la vérité. Parce que nous disons que le calendrier électoral qui en sortira doit être le résultat des décisions consensuelles. Et donc, il est tout à fait normal qu'au dialogue, on se pose des questions comme mon ami Moïse de Guémena, et qu'on y trouve des véritables solutions.
Alors là, professeur, avant que je ne donne la parole à l'honorable Crispin Goy, ne se pose-t-il pas le problème qu'a décrié Joseph Kongolo, que la cacophonie serait entretenue par le contour qu'on donne finalement à ce dialogue? Est-ce que ce n'est pas ça l'élément qui bloquerait même le président de la République?
Non, pas du tout. Enfin, moi, je ne vais pas parler à la place du président de la République. Mon ami de la majorité pourra peut-être essayer de s'y exercer. Moi, non, je suis de l'opposition. Mais ce que je sais, c'est que le président de la République, parmi les actes de sagesse qu'il aura posé durant tout son règne, c'est entre autres la convocation du dialogue, parce que nous supposons, nous, à l'opère, qu'en le faisant, il s'est démarqué de ceux qui ne l'ont pas aidé à respecter les prescrits de la Constitution et nous faire tenir des élections dans les délais constitutionnels. Et donc, moi, je ne saurais pas répondre à sa place. Peut-être à mon collègue, l'honorable Crispin Goy.
Merci.
Et sinon, le dialogue devrait répondre également à tous ces questionnements.
Merci, honorable Crispin Goy. Il y a pour vous cette réflexion qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
Le docteur Amani Chiroumé, depuis Bukavu, dans la province du sud Kivu. Cette question du dialogue est déjà un échec, d'autant plus que toutes les parties prenantes ne se sont pas mises d'accord sur les modalités de son organisation. Si réellement le gouvernement veut organiser les élections, il devrait financer la tenue pour amorcer le processus électoral au lieu d'entretenir une perte du temps pour l'organisation du dialogue qui pourtant a déjà démontré qu'il n'aboutira à rien. L'expérience des concertations nationales doit nous rendre déjà sages.
J'ajoute deux réactions, honorable Crispin Goy. Rémi Mossema de Kisangani, il y a eu des marches de soutien partout, des cultes pour le dialogue depuis que le président de la République a commencé ses consultations et la tenue du dit dialogue. On se rend compte que la MP n'a plus d'intérêt car elle se cache derrière le refus de la vraie opposition. Pierre-Camille Moussa-Suisson de Lubumbashi, l'OPR, a raison de donner l'ultimatum car nous nous rendons compte que la chanson de la tenue du dialogue nous laisse de plus en plus dans la distraction depuis qu'elle a été annoncée, alors que le temps avance. Honorable.
Je vais d'abord répondre à mon ami de Bukavu et celui de Guémena, qu'il s'agit tout simplement de déclarations fortuites. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas déclarer aujourd'hui que le dialogue est un échec. Pourquoi? Puisque le dialogue n'a pas encore eu lieu jusque-là. Et d'un codio, notre...
Est-il encore opportun à ce niveau, à ce stade
du processus? Le dialogue est opportun. Le dialogue est opportun, et puisque c'est le rassemblement des fils et filles de la République démocratique du Congo.
République.
Les fils et filles de la République démocratique du Congo doivent se réunir pour parler de problèmes qui se touchent dans notre pays. Que vous le vouliez ou pas, vous savez que jusqu'à ce jour, lorsqu'on a organisé les élections en 2006, on s'est limité à 5 élections. Et pourtant, il y en a 9. Il y a 4 qui n'ont jamais été réalisées. En 2011, on n'a fait que 2 élections, l'élection présidentielle et l'élection législative. Jusqu'à ce jour, il y a le Sénat qui a continué à travailler, il y a les gouverneurs qui ont continué à travailler, il y a les assemblées provinciales. Tout cela, ce sont des problèmes qu'il faut résoudre. Et aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, aujourd'hui. Et qu'en décembre, on doit mettre fin. Donc, le pouvoir ou bien le mandat présidentiel se termine. Est-ce que nous serons capables d'organiser les élections? Et la CENI vous dit que pour faire l'enrôlement des électeurs, il lui faut au moins 17 mois. Or, d'aujourd'hui jusqu'en décembre, ça ne fait pas 17 mois. 17 mois, ça dépasse cela. Et ce sont les éléments qu'il faudrait qu'on puisse...
Mais le président de la République ne semble pas être très pressé d'aller à ce dialogue.
Heureusement, vous parlez qu'il ne semble pas. Sembler n'est pas la réalité. Donc, vous croyez qu'il ne semble pas, mais le président de la République est celui qui a convoqué le dialogue. Et personne ne lui a mis dans sa tête l'idée de convoquer le dialogue. C'est lui-même qui a convoqué ce dialogue. Et puis, vous avez appris le retour des facilitateurs et d'un coup qui est là, qui est en train de continuer à travailler. Je crois que d'ici les 2-3 jours, il va faire le rapport. Et puis, vous avez suivi les discours du président de l'Assemblée. Donc, le dialogue va se tenir. Notre ami de Guémena, notre ami de Bukavu, ils doivent se préparer à venir donner le meilleur d'eux-mêmes. Puisque à ce dialogue, nous le voulons bien inclusif pour préparer l'avenir heureux de la République démocratique du Congo.
Alors, le refus d'une partie importante de l'opposition de participer à ce dialogue ne serait-il pas une épine dans la chaussure du président de la République, honorable Crispin Goy?
Pas du tout. Vous savez que nous sommes dans la démocratie. Les refus, c'est aussi un droit. Quelqu'un peut refuser aussi de participer, c'est un droit, nous sommes dans la démocratie. Et puis, en plus de cela, on ne va pas tenir le dialogue intercongolais avec 72 millions d'habitants. Il y a toujours des représentations qui seront là. Donc, lorsque le dialogue va se tenir, les représentants du peuple qui vont se retrouver à ce dialogue vont tirer des conclusions et les autres populations doivent se plier. Donc, les refus de certains... D'ailleurs, que je ne connais même pas, puisque je les entends parler, je ne vois même pas ceux qui ont refusé. Ils sont en train tout simplement d'essayer un peu de tirer le fil, mais ils n'ont pas refusé. Et le soi-disant refus ne peut pas être le pire pour le président de la République. Puisqu'il n'y a pas quelqu'un qui a refusé, tout le monde va participer pour le bien du peuple congolais.
Ah, c'est vous qui le dites. Joseph Kongolo, il y a pour vous cette réaction qui nous vient de la province du Haut-Ouélé.
Crispin Alibou, territoire de Dungu, province de Haut-Ouélé. Je pense que l'opposition patriotique et républicaine fait de l'amalgame entre la cause du retard pour les dialogues et celle pour la tenue des élections dans l'air délai prévu. En réalité, à qui devrait-elle adresser cet ultimatum? Aux franges de l'opposition qui tergiverge au dialogue ou à la majorité présidentielle prête au dialogue inclusif? C'est au comité préparatoire de résoudre la crise actuelle, d'inclusivité des participants et surtout des confiances aux médiateurs qui posent problème.
Joseph Kongolo.
Bien. Merci beaucoup pour la question. C'est vrai, je crois que le professeur Mouchi a dit tout à l'heure qu'il adressait cet ultimatum. Au facilitateur, Edem Koudio, parce que pour lui, c'est lui qui gère l'exécutif du dialogue. Bon, ce qui est aussi vrai, je crois qu'il faut quand même tirer de l'amalgame, qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, l'incapacité du pouvoir porteur, ok, à organiser les élections avec tout ce qui se passe comme embûches, n'est-ce pas, qui sont sur le chemin de processus électoral. Je crois qu'il y a eu un projet démocratique qui a été mis en chantier à la République démocratique du Congo. Et l'élément majeur, c'était celui de la légitimité. Il fallait rompre avec les pouvoirs illégitimes par un processus électoral. Et pour régulariser ce processus électoral, c'est là effectivement que le porteur du pouvoir aujourd'hui, le régime en place, il s'est créé beaucoup d'obstacles lui-même, de manière à ce qu'aujourd'hui, on ne sait pas régulariser ce cycle. Vous comprenez ? C'est-à-dire que, c'est pourquoi j'ai dit de quelle crise il s'agit. Donner d'abord les contours de la crise. Le pouvoir n'a pas su organiser les élections dans les délais constitutionnels, alors que 5 ans avant, la sonnette d'alarme a été tirée. Et aujourd'hui, vous êtes devant un régime qui n'a pas su organiser les élections et qui convoque le dialogue pour chercher de trouver la solution dans ce dialogue. Vous comprenez ce qu'il y a ? C'est-à-dire que ça fait partie d'une stratégie, n'est-ce pas, du pouvoir. Non, nous croyons ici que la classe politique doit se mettre ensemble, n'est-ce pas, se raviser, se dire des vérités en face et arriver, n'est-ce pas, à tracer le chemin, à éviter au peuple, n'est-ce pas, toutes ces incertitudes et toutes ces menaces qui menacent à la fois même les moindres acquis de la démocratie que nous avons depuis 2001. Donc je crois aujourd'hui que c'est une responsabilité de la classe politique. Si en dehors des institutions, cette classe politique n'a pas su, n'est-ce pas, se mettre ensemble pour discuter de ce problème et sauver la République, je crois qu'au niveau institutionnel, il y a rentrée parlementaire, ils doivent se mettre ensemble et trouver deux chemins qui doivent mener la nation vers la lumière.
Joseph Kongolo, en d'autres termes, toute la classe politique devrait-elle se rendre à l'évidence qu'il y a impasse ?
Oui, impasse du projet électoral. Impasse du projet électoral. La République fonctionne correctement. J'entends les gens de la majorité dire que le président est en fonction, c'est jusqu'au mois de décembre. C'est-à-dire que les institutions fonctionnent correctement. N'est-ce pas ? Donc, ce qu'il y a, c'est de débloquer le processus électoral. Ok ? Si la classe politique trouve que pour débloquer le processus électoral, il faut passer par le dialogue, tant mieux. Pour nous, le problème, c'est l'objectif, c'est d'éviter à la nation, n'est-ce pas, ce flot de sang et tout ce qu'on nous parle d'un langage de violence, de langage d'hécatombe, d'apocalypse et tout ça. Je crois que pour nous éviter toutes ces choses, la classe politique devra trouver de couloirs qui doivent nous mener vers la lumière.
Professeur Mouchi, bonne année. Il y a Lissungi Pépé qui nous écrit de Kisangani qui dit la déclaration de l'OPR est une déclaration anticonstitutionnelle, favorable aux politiciens et très gênante pour le peuple congolais. Moi, dit-il, je crois que cette plateforme attend plutôt le partage de gâteaux qui n'arrive pas. Ensuite, est-il encore important de penser à ce dialogue au moment où tout Congolais, politicien ou pas, qui ne partage pas la même vision avec le pouvoir en place, sont mal à l'aise sur tous les plans dans le pays?
Il a raison de se limiter à ce niveau-là. C'est la plus belle fille du monde ne donne que ce qu'elle a. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est nous qui faisons la politique pour le peuple et nous avons un devoir d'informer, de sensibiliser anticonstitutionnel. Ça, c'est se mettre en marge des articles 52 et 60 de la Constitution qui appellent non seulement le pouvoir politique, mais aussi les citoyens à concourir à la matérialisation de la paix et de la sécurité des citoyens. Ça, c'est l'article 52 de la Constitution. Mais l'article 62 va plus loin, jusqu'à globaliser les pouvoirs publics, y compris les citoyens, doivent concourir à la réalisation du respect et la protection des droits de l'homme. Et donc, si un groupement politique estime qu'il est temps de mettre fin à un long moment d'attente, de suspense, il est plutôt dans la Constitution, et je rappelle à mon ami là de Lissungi, je ne sais pas, vous avez dit, il a plaidou.
De Kisangani.
Oui, de se rendre très vite dans sa bibliothèque et rechercher la Constitution, et lire les articles 52 et 60. Mais j'aurais quand même aimé toucher sur la parole que vous me donnez.
Très rapidement, il ne nous reste plus beaucoup de temps.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous voulions dire effectivement aussi que, un peu comme Crispé l'a dit, qu'il n'y a pas d'amalgame dans ce que nous avons dit. Parce que quand vous avez pris seulement un extrait de notre déclaration, il y a eu l'ultimatum adressé au pouvoir organisateur, mais spécialement à Edem Kojo, pour dire d'ici le 30, s'il n'y a pas le comité préparatoire, c'est qu'il n'y a pas la volonté d'aller au dialogue. Mais aussi, nous avons dit, un peu comme Crispé est intervenu tout à l'heure, nous avons dit qu'il n'est pas mauvais que certains partis qui se disent ou qui se veulent significatifs de l'opposition soient dehors, mais alors qu'ils se livrent à un travail politiquement et démocratiquement. Merci. Est-il à la nation critiquer ce qui va se passer à l'intérieur du dialogue et que le pouvoir ne tire pas argument de ceux qui hésitent.
Merci.
Et qui, pour retarder, il faut que on convoque les dialogues,
merci,
qu'on
règle
le problème et qu'on mette le pays à l'abri de toute éventualité pour rejoindre mon ami de droite.
Merci. Honorable Crispin Goy, à Josapha Kazimoto qui nous écrit de l'Afrique du Sud qui dit « Avant de répondre à une invitation, il faut en premier lieu savoir s'il s'agit d'une fête de mariage ou de la levée d'un deuil, sinon on risque de s'habiller en noir à la place du blanc. Le gouvernement a son agenda, pourquoi lui faire pression quand il n'a pas encore fini ses préparatifs afin d'honorer ses hôtes et les autres qui ont dit non parce qu'ils ne savent pas de quelle fête s'agit-il. À mon avis, l'opposition dite républicaine ne doit pas pousser en aucune manière ou faire pression au gouvernement avant que ce dernier ne lui remette une invitation en temps opportun, selon son agenda bien déterminé.
Il est clair pour notre ami de l'Afrique du Sud qu'il comprenne qu'on n'a rien caché. Le président de la République, en convoquant le dialogue, il a cité le point essentiel, qu'il estimait qu'il fallait qu'on en parle. Donc, on n'a pas caché pour que quelqu'un puisse s'habiller en noir quand nous allons à la fête de mariage. Donc, les éléments ont été clarifiés, le chef de l'État était clair, les points sont connus, tout le monde sait que le peuple congolais doit se réunir pour éviter au peuple congolais le pire, pour éviter ce que nous avons connu en 2006, pour éviter ce que nous avons connu en 2011, les conflits post-électoraux. Donc, il fallait que nous puissions en parler aujourd'hui, que tout le monde puisse prendre conscience, puisque nous sommes à la période électorale. C'est clair, c'est défini, tout le monde connaît. Donc, notre ami ne doit pas se cacher derrière pour dire qu'on ne connaît pas le point. Non. S'il y a certains de nos confrères ou présidents de partis politiques qui ne veulent pas venir, moi je peux dire qu'ils viendront. Moi j'appelle ça tout simplement chantage politique. Le chantage politique, tout simplement, qui sont en train de tirer en longueur, mais ils sont appelés à venir pour l'intérêt de la République. Puisque lorsqu'on sortira de ces dialogues, les résolutions qui sortiront de là seront versées dans les institutions qui sont en train de fonctionner correctement, et les institutions vont le mettre en application, et les résultats donneront le bien-être de la population congolaise, y compris ceux qui sont en train d'hésiter de venir aujourd'hui.
Alors, en guise de conclusion, honorable Crispin Goy, vous êtes dans les secrets des dieux et des anges. On espère, et tout le peuple congolais vous suit, qu'on n'arrivera pas au mois de juin sans qu'on ait ce dialogue.
Je ne veux pas, moi, tourner autour des mois et des dates et des jours, mais tout ce que je sais que le dialogue aura lieu. Mais je voulais signifier, contrairement à ce que mon cher ami, mon cher collègue, l'honorable Bonanné a dit, le dialogue n'est pas l'espace de règlement des comptes. On ne va pas y aller pour se régler les comptes. On ne va pas aller là-bas pour juger les gens afin de les mettre en prison. Le dialogue est là, c'est pour que les Congolais se réunissent afin d'aboutir au bien-être de toute la population congolaise en général.
Merci, honorable.
Voilà ce que nous voulons. Donc, à la sortie de ce dialogue, tout le monde devra être heureux de vivre dans le beau Congo, son pays naturel.
Oh, merci, honorable. Joseph Kongolo, Thierry Machagiro de Goma dit, le seul conseil que je peux prodiguer à la classe politique, c'est de chercher à privilégier ce qui nous unit et non ce qui nous divise. S'il n'y a pas de sagesse de part et d'autre, majorité, opposition et société civile, le pays risquera de sombrer dans le chaos, dans l'insécurité généralisée.
Effectivement, je lui donne complètement raison. Je crois qu'il y a un idéal d'une nation, voyez-vous, un idéal d'une nation, c'est-à-dire que ça doit mettre ensemble et l'opposition et le pouvoir. Et même dans les différents projets de société des États, des différents partis politiques, si vous les mettez ensemble, que vous les lisez, vous allez trouver pratiquement que c'est le même, c'est presque le même projet de société. C'est un même idéal que tout le monde nourrit, mais peut-être en préconisant des voies différentes. Alors, si c'est l'intérêt de la nation qui est au plus haut point, au premier plan, je crois que nos divergences seront positives. C'est-à-dire que ça va nous amener tout simplement à confronter les idées de manière à déboucher sur des résultats qui concourent, n'est-ce pas, au bien-être de la population. Mais si l'intérêt général, n'est-ce pas, n'est qu'un subterfuge, ça veut dire tout simplement qu'il y a des agendas cachés en ce moment-là, on n'arrivera pas, n'est-ce pas, au bienfait, à l'intérêt général.
Alors en un mot, tout à l'heure vous disiez que le régime s'est lui-même créé beaucoup d'obstacles. En un mot, s'il y avait un conseil à prodiguer aux dirigeants, ce serait lequel, selon vous?
Revenir à des meilleures dispositions d'esprit, réactiver la volonté politique et remettre le processus électoral en marche. Là, ils vont sauver tous les acquis qu'il y a. Donc, tout ce qui fait la fierté aujourd'hui du régime en place sera sauvé à travers un processus électoral stable et apaisé.
Merci. Professeur Mouchi Bonané, en un mot, quelles sont les attentes de l'OPR au bout des assises du dialogue s'il devrait avoir lieu brièvement?
En un mot, ce serait alors que la CENI entendit nous puissions nous en sortir avec un calendrier électoral consensuel, contraignant, étalé sur une période réaliste. Deux, que le Congo puisse profiter d'un deuxième pacte républicain, le premier ayant été trouvé à Sun City avec quatre vice-présidents, mais cette fois-ci un pacte républicain où les uns les autres vont se donner des garanties pour que le processus arrive à son terme sans erreur.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Merci à vous chers auditeurs et internautes de votre attention. Bonne suite au programme sur la radio de la paix. Au revoir.